17h02 dans le retour à Boulevard 102.1. Moins d'une heure à passer ensemble, mine de rien. Moins d'une heure à cette édition estivale du retour de Boulevard. Avant, le grand retour de Gravel dans le retour. Lundi, 14h avec Gravel, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Dans les sujets d'actualité qui retiennent beaucoup l'attention aujourd'hui, un chat atteint de la rage du raton laveur qui a mordu 3 personnes en Montérégie. Puis la rage, on dirait que c'est pas un sujet dont on parle souvent. J'ai l'impression que ça reste un petit peu méconnu, au point où tantôt, j'ai quasiment fait le saut là, quand on m'a dit « Non, non, la rage, parce que quand tu commences à avoir des symptômes, c'est pas long que c'est mortel puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. » On va en parler avec Dr. Michael Lehman, qui est professeur à la division des maladies infectieuses et membre du Centre des maladies tropicales de l'Université McGill. Dr. Lehman, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que les risques de transmission de la rage à l'humain sont importants dans ce contexte-là où un raton laveur le chat atteint de la rage du raton laveur a mordu 3 personnes? Est-ce que c'est quasiment automatique que la rage va se transférer?
Ben, c'est pas nécessairement automatique, mais enfin, c'est une maladie, comme vous avez dit tantôt, c'est une maladie mortelle sans traitement, alors même un faible risque est important. Ça dépend beaucoup le morceau. Est-ce qu'on a vraiment injecté du salive à travers le pot et tout ça? Il y a des lésions qui sont plus ou moins importantes, des morceaux plus ou moins sévères. Alors le risque peut varier, mais c'est un risque de maladie mortelle finalement. Alors c'est important.
Quelles sont les mesures à prendre en cas de morsure ou de contact avec des animaux sauvages sur le coup? Là, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, ben, évidemment, au début, on devrait éviter d'être par un animal sauvage. Là, il y a des gens, surtout des chats et des chiens, ils ont l'impression que c'est intéressant de jouer avec un peu. On devrait éviter le contact avec des animaux non connus d'abord. C'est la prévention de plus important. Après ça, si jamais on a une morsure, une égratignure, on devrait le plus vite que possible de laver comme il faut. On parle de comme 15 minutes avec du savon et tout ça. Mais l'important finalement, c'est de contacter une clinique. Vous pouvez appeler le 811, par exemple, ou aller vers une urgence. Mais il faut contacter une clinique parce que ce genre d'accident, une morsure ou une égratignure, ça devrait être un médecin qui connaît la situation, qui va évaluer qu'est-ce qu'il faut faire.
Les symptômes à surveiller, ce sont lesquels? Puis en même temps, de ce que je comprends, c'est bien plate, mais quand il commence à y avoir des symptômes, il est déjà trop tard, c'est-tu bien ça que je comprends?
Oui. Non, on n'attend pas les symptômes. C'est quand il y a des symptômes, enfin, le processus est engagé et il n'y a pas de traitement. C'est très, très important d'avoir un traitement, c'est surtout une vaccination en prévention, bien avant que les symptômes commencent. On ne devrait jamais attendre voir s'il y a des symptômes qui commencent. Il faudra être évalué assez vite pour prévenir l'infection.
Est-ce que les ratons laveurs atteints de la rage sont nombreux au Québec ou c'est généralement bien contrôlé?
C'est assez bien contrôlé. Il y a des années où ça va mieux et d'autres années où il y en a plus. Récemment, pas seulement au Québec, mais dans toute la région, le nord-est des États-Unis, il semble que c'est récemment un peu pire que c'était. Il y a plus d'animaux qu'on détecte récemment. Il y a toujours eux et on ne peut pas l'éliminer complètement. Mais cette année, il semble que c'est un peu pire que le moyen.
À ma connaissance, le vaccin contre la rage n'est pas donné à tout le monde là, en ce moment.
Non.
Et là, on entend de plus en plus d'histoires. Il y a un enfant en Ontario qui est décédé, malheureusement, après avoir été mordu par une chauve-souris. Là, on entend cette histoire là, de chat qui a la rage au Québec. Est-ce que la vaccination contre la rage, ça vaudrait la peine de l'étendre un petit peu plus largement que les quelques personnes pour l'instant qui reçoivent ce vaccin-là?
Oui. Normalement, c'est vrai, on ne le donne pas à tout le monde. C'est une maladie qui est quand même très, très rare. Alors, de vacciner tout le monde, c'est peut-être pas nécessaire. Et surtout parce qu'on a un traitement post-exposition. Si on suit la procédure de vaccination après ce genre d'accident, l'efficacité est plus ou moins 100%. Alors, puisqu'on a un bon traitement, l'important, c'est d'aller chercher le traitement. Mais si quelqu'un est vacciné comme il faut après ce genre d'accident, on peut prévenir à quasiment 100% les infections.
Donc, alors, on peut être vacciné après avoir été mordu ou griffé, c'est ça?
Exact. Mais pas longtemps après, évidemment. Il faut idéalement aller tout de suite et au moins dans les 1 ou 2 jours maximum.
Dr. Michael Lehman, professeur à la Division des maladies infectieuses et membre du Centre des maladies tropicales de l'Université McGill, un gros merci pour votre temps.
OK, de rien.
Bye-bye.
Le retour.
Depuis ma première course, je sais que c'est ce que je veux faire. Je peux courser. J'habite à Berthierville avec mes parents, mon épouse, mes 2 enfants.
Et là, quand tu fais de quoi, il fait à 200%.
C'est malade!
Je veux être un pilote de course, c'est là que je me sens à ma place.
C'est pas le meilleur dans ces affaires-là. Ça donne rien.
J'ai gagné.
For a driver to be with us, they have to bring $50,000 in sponsorship.
Villeneuve, l'ascension d'une légende, la bande-annonce officielle qui a été partagée dans les dernières heures. Et déjà, Antonine, ça retient beaucoup d'attention.
Bien, on a hâte, en fait, de voir ce film-là. Gilles Villeneuve, qui est évidemment un personnage important de notre histoire, pilote de Formule 1 légendaire, j'ai envie de dire. Moi, j'ai vraiment très hâte de voir ce film. C'est réalisé par Yann Lanouette-Turgeon. Ça va sortir en salle le 11 novembre. Donc, évidemment, il va falloir attendre un petit peu, mais ils savent comment nous mettre l'eau à la bouche. C'est Rosalie Bonenfant qui va jouer le rôle de son épouse et c'est Rémi Goulet qui va jouer le rôle titre dans ce film qui va retracer la vie de Gilles Villeneuve, pilote légendaire. On est à Berthierville dans les années 70. Gilles Villeneuve est issu d'un milieu modeste. C'est un jeune Québécois passionné qui va monter les échelons comme ça jusqu'à se rendre à être un pilote de Formule 1, notamment pour Ferrari. Et évidemment, il l'a terminé de manière très tragique. Moi, personnellement, de ma génération, on a plus connu son fils, Jacques Villeneuve. Ça a été la folie, là, je dois vous dire, là, dans les années 90.
Pour Jacques.
Et fou, là. Tantôt, on parlait un petit peu plus tôt de Félix Auger-Aliassime. On n'est pas tout à fait dans le même calibre en termes de folie, de gens qui se sont mis tous à suivre la Formule 1 tout à coup.
C'était de l'idolâtrie, là.
Ah, complètement, là. C'était une star, vraiment. Il y a énormément de gens qui se sont mis à écouter la Formule 1 à cause de Jacques Villeneuve. Mais l'histoire du père de Gilles Villeneuve est particulièrement intéressante. J'ai bien hâte de voir tout ça. Puis ça m'a amené à réfléchir aussi sur nos héros au Québec. On revient des fois souvent avec les mêmes, des politiciens par exemple, mais des sportifs comme évidemment des joueurs de hockey. C'est sûr qu'on a eu le film sur Maurice Richard avec Roy Dupuis qui a marqué. Mais je trouve qu'on a tellement peu de héros. Il y en a pour qui je comprends pas qu'on n'a pas encore fait de film ou de série.
Si Marceau était là, il te parlerait de Léo Major.
Écoute, moi puis Marceau, on n'est pas souvent d'accord sur grand-chose. Hein? Mais ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Premièrement,
cette histoire-là, on dirait que cette histoire-là arrive avec un Américain. Il y a déjà 500 films faits sur Léo Major.
Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Léo Major, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a sauvé tout un village aux Pays-Bas seul, okay, contre un paquet de soldats nazis, tout seul avec des grenades puis avec deux armes à feu, là, quelque chose comme ça.
Lui, il a quasiment rien raconté à personne après ça.
Il est rentré chez eux, il a fait sa vie, puis vraiment à la fin de sa vie, on a commencé à comprendre, pas parce que lui, il l'a raconté, mais parce que aux Pays-Bas, à ce volet où il a libéré ce village-là.
Il était idolâtré.
C'est un dieu. Il y a des statues de lui. À chaque année, il montait là, puis il y a une grande fête pour Léo Major, puis c'est un héros épouvantable là-bas. Puis même, il racontait dans une entrevue que vous pouvez trouver sur YouTube, ou ben, en tout cas, au moins sur Google, que la première fois qu'il a amené sa femme là-bas, parce que lui, ça n'avait pas trop envie de parler de ça après, là, ça avait été quand même traumatisant, la guerre pour lui. Il dit sa femme n'en revenait pas. Il dit, ben voyons donc. Il dit que c'est ça. Il était promené dans le village, dans une carriole, tout le monde les acclamait. Puis
le film là-dessus serait
fou.
Incroyable.
Puis ce qui est fou, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'histoire, mais jamais, en fait, pas jamais, maintenant, je pense que ça commence, mais quand j'étais jeune, dans les cours d'histoire, on parlait du Québec, on parlait de plein de choses, on parlait jamais de Léo Major. Ça a été très, très long avant qu'on commence à en entendre parler.
Ben, j'ai envie de dire que j'ai été au secondaire il n'y a pas si
longtemps,
que
moi,
ça,
mettons.
Là, Tu sais, ça fait environ 5 ans que je suis sorti du secondaire. On n'en parlait pas vraiment de Léo Major dans nos cours d'histoire.
Il y a un livre qui est sorti, une bande dessinée, il y a quelques semaines à peine de ça, au mois de mai, pour être plus précis. Léo Major, La longue nuit du fantôme Borgne. On avait reçu dans Marceau le matin l'auteur de cette bande dessinée-là. Puis, tu sais, en y jasant, on avait eu un peu cette discussion-là sur « Hey, comment ça, on n'en parle autant pas de Léo Major? » Même lui, il savait pas trop quoi nous dire, dans le sens où ça ferait tellement bon. Un gars qui sauve un village à lui tout seul contre les nazis, je veux dire, tu voudrais inventer ce scénario-là, tu ferais un film là-dessus, là, c'est arrivé pour vrai avec un Québécois, puis il n'y a personne qui a encore eu envie de se pencher là-dessus.
Peut-être une petite piste d'explication. Les Québécois ont une relation amour-haine avec la guerre. Donc, les héros de guerre québécois, c'est peut-être
vrai.
Pas naturel. Il faut dire que les Québécois se sont opposés à la conscription quand on a appelé les soldats pour aller se battre. Peut-être un petit sentiment aussi qu'on se battait pour un autre pays. Là, quand on est nationaliste, il peut y avoir cet aspect-là qui est présent. Il y a quelques années, le gouvernement de la CAQ a nommé une autoroute Léo Major ici dans la région, là, dans le coin de la base militaire de Valcartier. On commence un peu tranquillement là, à lui rendre hommage, mais il est maintenant décédé. De son vivant, il n'a jamais reçu tous les honneurs comme il aurait dû les recevoir.
Il y a eu un genre de documentaire du même nom, Léo Major, le fantôme borgne, sorti il y a quelques années.
Le fantôme qui la faisait peur, c'était le fantôme borgne pour eux autres.
Où on parle vraiment de son histoire et tout ça. Mais tu sais, un film, là, d'action.
Oui, là, avec la musique.
C'est
là,
ça qu'on veut.
On veut ça.
À l'ego, c'était mon père.
C'était le tireur d'élite et l'éclaireur par excellence du bataillon.
Il n'a pas peur de rien. Quel gars qui n'a pas peur de rien, c'est pas Dieu, tu le suis. Mais toi ici, toi, tu vas avoir ta peur, mais tu suis.
Fait que le documentaire Léo Major, le fantôme borgne, honnêtement, je ne sais pas trop où ça se retrouve, mais ça se retrouve quelque part. J'avais la bande-annonce. Y en a-tu tant que ça, des Québécois qui en mériteraient des vrais films sur eux autres, là, au-delà d'un documentaire ou...
Ben, tu sais, on est une société relativement jeune.
Oui.
On est une petite société aussi, on n'est pas nombreux, donc c'est normal qu'il n'en pleuve pas à toutes les semaines. Moi, je pense que Léo Major, c'est un incontournable. Il y a un auditeur qui nous dit « Il nous manque beaucoup d'informations ». Oui et non, là, tu sais, dans le sens que du volet, la ville aux Pays-Bas a beaucoup documenté cette histoire-là. Là, c'est pas une légende urbaine.
Puis tu peux toujours romancer. En fait, t'as
puis
pas le choix.
Sûr,
tu sais, je veux dire, le film sur M. Villeneuve, là, ce sera pas 100% du factuel, on s'entend.
De toute façon, t'as beaucoup de films récemment que c'est justement ça, des biopics. Donc, on vient prendre des éléments réels puis les romancer. Mettons Oppenheimer, qui a été fait il y a une couple d'années. C'est un biopic. On vient prendre des éléments réels puis on romance tout en rajoutant des choses qui sont pas vraies.
Ce qui me tanne un petit peu avec ces films-là, c'est qu'il y a tellement de monde qui va voir ce film-là puis qui a l'impression que c'est un documentaire, fait qu'il va prendre tout pour du cash.
Oui.
Puis en effet, si tu le sais pas, je veux dire, toi, tu penses que tu vois ça puis que tout est vrai là-dedans. Fait que je pense que ça peut un peu... truquer l'histoire où il y a tellement de monde qui va penser que telle version, c'est vraiment historique, alors que non, c'est parce que c'est juste le film a été tellement populaire, puis c'était la... sinon le film aurait été plate. Fait que t'as pas le choix d'ajouter des affaires. Pis...
Ouais, puis il y a toujours plusieurs perspectives à une même histoire. Hein. Tu peux raconter une histoire du point de vue,
ben oui.
De plusieurs points de vue. Cela dit, j'espère qu'on aurait un film qui est quand même assez fidèle à la réalité. Je pense que l'histoire est plus grande que nature à la base. Donc, même pas besoin de beaucoup la romancer. C'est juste de compléter Fill the Blanks quand on sait pas trop. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi on dit que c'est le borgne dans les titres de livres et de documentaires, c'est qu'il avait perdu un œil. Il s'était blessé à un œil pendant cette bataille-là. Donc, ça le rend encore plus mystérieux, je trouve.
Mais quand tu dis que l'histoire est plus grande que la nature, ça, on en a déjà vu des histoires comme ça, j'ai envie de dire, se faire adapter au cinéma. Comme par exemple, Hacksaw Ridge. Puis ça, c'est intéressant, ce film-là, tu sais, c'est le soldat qui était catholique, fait qu'il portait pas d'armes, puis qui a sauvé beaucoup, beaucoup d'autres soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce film-là, puis il a sauvé une centaine de personnes à lui tout seul sur un champ de bataille pendant une nuit, c'est complètement fou. Ce film-là, ils ont dû réduire les actes de l'homme pour que ça paraisse
réaliste. C'est bien drôle.
Ils ont dû réduire ce qu'il avait réellement fait dans la vraie vie pour que ça paraisse réaliste à l'écoute.
C'est tellement
que c'était gros ce qu'il avait fait, il pouvait pas tout mettre à l'écran parce que le monde allait dire « ben voyons, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, ce film-là ».
Incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. On entend souvent « si j'avais raconté cette histoire-là, on aurait fait un film, les gens y auraient pas cru ». Ben là, faut croire qu'il fallait rendre ça plus crédible.
En français, c'est « Tu ne tueras point », puis c'est Andrew Garfield qui joue dans ce film-là.
Au retour, les nouvelles avec Mathias. On a entre autres des développements là, par rapport à toute cette histoire. Philippe Benoit, accusé du meurtre de son fils du côté de Shawinigan. Et un peu plus tard, on se pose aussi la question, cacher des dettes à son partenaire amoureux, est-ce que c'est une forme de trahison? Il y a eu une étude à ce sujet-là. Puis j'ai aussi des billets pour le match boulevard des Capitales à vous donner.
Le retour.
minutes dans le retour à Boulevard. Je commence à être déjà nostalgique de cette belle semaine passée en compagnie de Mathias Turcotte et d'Antonine Iacarini, des deux précédentes aussi avec Anto et Audrey Pinchot. C'est le fun de faire le retour l'été. C'est une dynamique le fun, mais je suis persuadé que les auditeurs seront très contents, évidemment, dès 14h lundi, de retrouver la vraie gang de Gravel dans le retour avec Gravel, Audrey et Véro, et je fais partie de ces auditeurs qui seront assurément contents de retrouver la gang. Officiellement, je tombe en vacances dans 35 minutes. Factuellement, je vais assurément appeler une couple de fois en nombre dans les prochains jours. Déjà, je parlais tantôt à Dan Caron qui va être là vendredi après-midi, mais aussi tout au long de la fin de semaine dans le boulevard du Rock. J'ai dit à Dan que j'allais l'appeler là, pour y parler d'Oceaga, pour entre autres jaser du show de 21 Pilots demain soir. Dimanche, on risque de se parler aussi des deux shows rock de la veille, Franz Ferdinand et Turnstile. Lundi, c'est un peu une tradition avec la gang de Gravel dans le retour aussi de se faire un petit appel pour parler de mon week-end à Oceaga. Fait que je suis en vacances, mais au téléphone, ça compte pas.
Je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais
en même temps... Tu décroches pas.
Mais en même temps, là, tu t'en vas parler de show parce que t'as trippé.
Exact.
On peut te le pardonner.
Dans les prochaines minutes, après les nouvelles, je vous offre des billets pour le match au boulevard des Capitales de Québec le 20 août prochain. Mais en attendant, comme je viens de le mentionner, Mathias, les nouvelles, puis on a des détails par rapport à, je dirais, le gros dossier d'actualité de la semaine au Québec.
Ah oui, puis tu fais bien de le dire, là, c'est une chasse à l'homme qui avait retenu beaucoup d'attention au cours des derniers jours. C'est Philippe Benoit qui a comparu cet après-midi, l'homme de 40 ans qui est présentement accusé de meurtre prémédité envers son propre fils. Juste vous rappeler rapidement, on avait retrouvé le cadavre de son fils au sein de sa demeure à cet homme-là, Philippe Benoit, du côté de Shawinigan. S'en était suivi une chasse à l'homme qui avait duré 4 jours avant qu'on retrouve l'homme, finalement, hier vers 16h30. Donc, sa comparution aujourd'hui en visioconférence. Ce qu'on nous indique, c'est que l'accusé restera sous la garde d'agents de la paix du côté de l'hôpital où il est présentement traité. On lui a aussi interdit d'entrer en contact avec plusieurs personnes de son entourage. On parle de témoins d'infraction, mais aussi de membres de la famille de la victime, bien entendu. On nous indique aussi que pour l'instant, on n'a pas parlé de l'aspect psychologique de la chose. Aucune demande d'évaluation psychologique a été formulée par la couronne ou la défense avant la comparution d'aujourd'hui. Aussi, son aptitude à faire face à la justice ou encore la pertinence d'une expertise psychiatrique n'a toujours pas été soulevée aujourd'hui. Est-ce que ça va l'être dans le futur? Ça, ça se pourrait, mais pour l'instant, on l'a toujours pas
traité. Ça a l'air d'un cas qui va terminer en non-responsabilité, là, mais...
J'ai reçu des nouvelles d'Audrey Pinchot qui est en vacances, mais qui est quand même à l'écoute. Puis elle m'a dit que malheureusement, il n'y avait pas de place pour moi dans le retour lundi. Fait que tant pis pour eux autres, je vais aller à week-end.
Je termine quand même la nouvelle en disant que le retour devant la cour de Philippe Benoit est prévu pour le 2 septembre prochain. Une action collective qui avait fait beaucoup de bruit, une action collective contre le diocèse de Québec. Puis aujourd'hui, on a eu le témoignage des deux hommes à l'origine de cette action collective-là. Pourquoi? Parce qu'on venait justement déposer devant une audience les papiers qui faisaient en sorte qu'on va pouvoir réclamer le 31,5 millions que le diocèse de Québec va devoir payer pour indemniser les victimes présumées d'abus sexuels. On a bien sûr parlé d'une victoire avec un goût amer. Pour vous citer certains des deux hommes en question, l'entente, j'en suis très satisfait, mais la façon dont ça s'est fait, c'est inhumain. On peut comparer ça à de la torture psychologique. On a aussi directement ciblé des hommes de Dieu en disant aux hommes de Dieu, un des hommes qui a demandé « Comment justifiez-vous d'avoir négocié aussi longtemps avec vos victimes pour une question d'argent? » Vous vouliez sauver de l'argent, c'est ça. Donc, cette affaire-là qui s'est réglée aujourd'hui.
Finalement, après mes menaces, m'ont fait une place dans Gavel dans le retour lundi.
Ça s'est réglé assez rapidement, merci. L'avocat de la défense des deux Américains qui ont été reconnus coupables du meurtre de Daniel Langlois et de sa conjointe du côté de la Dominique vont vouloir porter le verdict en appel. Ça a été annoncé aujourd'hui par l'avocat Ravi Raikomar. Rappeler des faits rapidement, là, le couple qui a été retrouvé mort dans une voiture incendiée du côté de la Dominique en 2023. C'est une chicane de voisins qui aurait dégénéré. Deux Américains qui ont été reconnus coupables dans cette affaire. La commissaire à la santé, Joanne Castonguay, qui aurait octroyé plusieurs contrats à certains proches même, de gré à gré, sans nécessairement aller en appel d'offres. C'est l'Autorité des marchés publics qui a publié un rapport très, très sévère vis-à-vis Joanne Castonguay. Depuis janvier 2022, la femme qui a octroyé 80 contrats de services professionnels pour un total d'environ 6 millions de dollars sans procéder à des appels d'offres, ce qu'on faisait, c'est qu'on réduisait le coût de ces contrats-là, quitte à en faire plus, pour éviter le processus d'appel d'offres. Dans certains cas, c'est même des personnes avec des liens familiaux avec Joanne Castonguay qui ont été visées par ces appels d'offres. Je vous rappelle que les agents de bord de WestJet pourraient partir en grève dès ce dimanche. Si jamais vous avez des vols prévus aujourd'hui jusqu'au 4 août, la compagnie qui propose quand même l'annulation ou la modification gratuite de ces derniers. Et je termine avec Denis Fortin, le maire de Saint-Antonin, qui s'est retiré temporairement de ses fonctions de maire parce qu'il est présentement accusé d'agression sexuelle. On a quand même indiqué du côté de Denis Fortin qu'on tenait à ce que des dispositions nécessaires soient mises en place pour que les opérations de la ville se poursuivent.
Merci beaucoup, Mathias. C'est l'heure de vous gâter. Sortez le 418-971-1021 par texto, pas trop loin. Vous le savez, aller au Stade Canac, toujours le fun, toujours un bon plan, mais particulièrement le 20 août prochain, les Capitales de Québec qui reçoivent au Stade Canac les Miners de Sussex County. Et c'est le match présenté par Boulevard 102.1. Fait que l'escouade Boulevard sera là, les animateurs seront sur place et j'aurai l'immense honneur de faire le lancer protocolaire. Puis non, j'ai pas encore commencé à me pratiquer.
Toujours pas?
Ben là, ça fait une semaine, je le sais, là. Je suis en vacances la semaine prochaine, mais on va faire rien que ça, toute la semaine.
OK.
Ben c'est ça, toute la semaine, on avait des billets à vous donner. Puis c'est encore le cas aujourd'hui pour gagner deux accès, oui, pour voir le match et tout ça, mais encore plus, deux accès dans la zone Kepler. Et ça comprend notamment trois consommations par personne et le popcorn à volonté. Fait qu'on vous invite à venir encourager les Capitals contre les Miners de Sussex County. Et en plus, les jeudis au Capital, comme si le match Boulevard, c'était pas assez, ben c'est les soirées gin à 50%. Et il y a des promotions chaque match, mais c'est ça le jeudi qui tombe à être le soir du match Boulevard. Gin à 50%. Puis la bouffe au Capital, pas compliqué, tout le temps 3$. CapitalDeQuébec.com, c'est le site pour acheter vos billets. Mais à l'instant, 418-971-1021 par texto. Écrivez « Bonnes vacances, Anto » avec votre nom complet. Woohoo! Parce qu'Antonine a tenu le fort à Boulevard tout au long de l'été. Je dirais bien « Bonnes vacances, Mathias » aussi.
Ouais, mais lui va... Ça risque d'être un peu plus fautif, surtout là, dans ce cas-ci.
Fait que Mathias continue de travailler. Là, t'es jeune, t'es capable. Antonine en a donné assez. Elle a besoin de repos.
Insinues-tu qu'Antonine n'est pas jeune?
J'aurais jamais dit ça. Okay. Elle a juste travaillé très, très fort.
Je comprends.
Fait que c'est ça. Bonnes vacances, Anto, au 418-971-1021 avec votre nom complet. Vous pourriez gagner. Le gagnant se fera au hasard dans les prochaines minutes. Deux accès dans la zone Kepler pour le match du 20 août prochain des Capitales de Québec. Et vous serez aux premières loges pour me voir réussir ou ne pas réussir mon lancé protocolaire pour ce match-là. Au retour de la pause, on va éventuellement se dire bye là, aux alentours de... pause alentours. À 18h, on va se dire bye pour jaser un peu de ce qu'on fait de nos vacances et tout ça. Mais en attendant, un dernier gros sujet sérieux, hein, parce que c'est ça qu'on fait ici, on fait de la grosse radio sérieuse. À partir de quel montant de dette que votre partenaire de vie vous a caché, vous le sacreriez dehors? C'est la question qu'on va se poser, parce qu'il y a eu un sondage très sérieux sur la question.
Le retour.
7h38, 20 degrés à Québec. Ce soir et cette nuit, on descend à 15 avec 40% de possibilité d'averse. En ce moment, c'est généralement nuageux, mais pas de pluie à l'horizon. Demain, vendredi, 25 degrés, 30% de possibilité d'averse, mais généralement, ça risque quand même d'être une belle journée. Après ça, va mouiller samedi, dimanche et lundi. Ça, c'est un petit peu la moins bonne nouvelle. Mais il ne mouillera pas toute la journée. Je checkais ça, puis ça dépend des heures. Puis, tu sais, des fois, c'est trompeur. Hein? Ça te dit qu'il va mouiller samedi, mais s'il mouille un peu là, à 8 heures le matin, ça te dit quand même qu'il mouille samedi, mais tu as toute ta journée après.
T'as-tu regardé des radars, Max?
Non, on n'est pas rendu là. Okay. Les radars, les heures... Comme hier,
oui.
Il annonçait de la pluie en soirée pendant une bonne partie de la journée au Festival de Lévis. En fait, dans la région, là, mais nous autres, on allait au festival, fait que je checkais les radars. Puis, à un moment où il annonçait encore de la pluie en soirée, moi, j'ai pu dire à tout le monde, il n'y en a pas de pluie. Les
tout
radars, puis on n'a pas eu de pluie pantoute, finalement.
Mais les entreprises de la région, puis les événements de la région avaient fait une sortie récemment pour dire de ne pas trop se fier aux icônes météo. Parce que quand tu regardes l'icône, tu vois des éclairs, puis des gouttes de pluie, tu te dis, ah, il fera pas beau.
Exemple parfait de ça. Mettons dimanche, je m'en vais à Oshiaga, à Montréal. Ah, oh, là, c'est rendu de la pluie toute la journée. Bon.
Ouais, mon exemple.
Finalement, en fin de semaine, à Montréal, il mouille vraiment toute la fin de semaine, ce qui n'était pas le cas tantôt. Fait que là, je viens de voir ça.
Laisse faire les exemples concrets. Restons théoriques.
Dans le général.
Tantôt,
je regardais ce qui allait se passer à Montréal en fin de semaine, puis avant la mise à jour très poche qu'on vient de nous donner. Mettons, dimanche, il mouillait un peu le matin, puis après ça, c'était super beau le reste de la journée. Mais sur l'icône, ça disait quand même juste pluie. Tu sais, c'était juste pluie dimanche.
C'est peut-être 20 minutes de pluie dans ta journée. Est-ce que tu vas t'empêcher d'aller voir ton spectacle, d'aller faire ton activité, d'aller faire ta randonnée ou d'aller aller au village des sports parce qu'il y a 20 minutes de pluie dans la journée?
Ben non. Sur la route, la 20 direction ouest, comme d'habitude, là, c'est jamé entre route du président Kennedy et Taniata. À part ça, Capitale-Est, petit ralentissement vers Pierre-Bertrand, mais loin d'être catastrophique. Félicitations à Marie-Michelle Murdoch qui gagne ses deux billets pour la zone Kepler pour le match boulevard des Capitales de Québec le 20 août prochain. Selon vous, et c'est selon des chiffres d'un sondage Moose Money, combien de pourcentage des Canadiens considéreraient terminer leur relation pour une dette cachée de leur partenaire au-dessus de 500 000 $?
Ben là, 500 000!
Non, non, toi!
Max, 100 % 500 000! Tu sais, je veux dire, ça change
ta vie.
J'ai
été surpris du chiffre.
Les gens sont tolérants.
C'est 78 %.
Au-dessus de 500 000.
Quand j'ai vu dette cachée de 500 000, moi aussi, ma réponse aurait été 100 % une dette cachée de 500 000 piastres. Il y a 22 %, moi, je vais le voir à l'envers, là. Il y a 22 % des Canadiens qui ne considèrent... Puis là, c'est même pas mettre fin à ta relation, c'est considérer. Fait qu'il y a 22 % des Canadiens qui ont répondu à ce sondage-là qui ont peut-être pas compris la question. Là. Moi, c'est peut-être ma petite hypothèse là-dessus. Mais ben, sinon, 22% ne considéreraient même pas mettre fin à leur relation si leur partenaire...
Des grands romantiques, eux autres, ils se disent « l'amour est plus fort que tout ». Oui, mais l'amour, c'est aussi d'être honnête avec ton partenaire. Je veux dire, 500 000 piastres de dette, ça change ta vie. Là.
On peut-tu en déduire qu'il y a 22% des Canadiens qui cachent des dettes à leur partenaire?
Tu vois, j'avais pas pensé à cette avenue-là.
T'es brillant, ouais, c'est probablement ça.
Dans le sondage Moose Money, on parle aussi de commitment. On demande aux Canadiens et Canadiennes, quelle est l'étape de la relation qui est le plus fort indicateur d'un commitment, d'un engagement à long terme? Puis là, c'est entre deux, mettons. Puis, tu sais... Honnêtement, c'est assez serrant entre les deux, mais il y en a un qui prend le dessus dans les deux cas que je joue. Déménager ensemble ou ouvrir un compte conjoint?
Ouh!
Ouvrir un compte conjoint.
Bouf! Un compte conjoint? Ben, tu mets l'argent que tu veux dans un compte conjoint.
Mais non, mais dans le sens... Mettons que je regarde ça avec mes yeux d'homme de 22 ans. J'habite présentement avec ma blonde, mais on n'a pas de compte conjoint, là. T'sais, j'ai mes affaires, puis elle a ses affaires.
Mais vous avez rien, vous n'avez pas besoin d'un compte conjoint.
Non, c'est ça,
le compte
exact.
Conjoint arrive souvent quand on se met à avoir des dépenses communes, par exemple, d'acheter une propriété. Ça peut être, tu achètes un chalet, tu dis, on va avoir le même compte pour payer les taxes, pour payer les assurances, etc. Fait que là, tu mets un montant dans le compte conjoint, mais surtout pour payer les affaires liées aux enfants.
Mais habituellement, quand tu es rendu là, tu habites pas ensemble? Vous habitez pas ensemble?
Oui, effectivement.
Ouais, c'est ça. Oui. Fait que moi là,
ça vient
logique,
après, d'habitude.
Là, ouais, c'est ça, exact.
Mais c'est que des fois, j'ai l'impression que les plus jeunes, vous pensez que quand on ouvre un compte conjoint, c'est terminé, vous avez plus de compte individuel.
Ah non.
C'est pas la
non,
mise
non.
en commun complète de vos avoirs. Là.
Ben en fait, c'est ça. Moi, c'est que j'y allais dans une logique de qu'est-ce qui arrive après l'autre, mettons.
Oui, puis je pense que c'est logique de le faire, mais en même temps, la question, c'est vraiment, c'est quoi le... plus fort indicateur d'engagement à long terme.
Ouais,
déménager
okay.
ensemble, ça, c'est quand même, on s'entend, très important.
Mais ouvrir un compte ensemble, oui. Je pense que c'est plus un indicateur d'engagement.
C'est
même
ça.
Si ça arrive après l'appartement.
Ouais, exact.
La réponse, puis encore là, je dis la réponse, c'est un sondage, là, c'est 54% contre 46. Fait que c'est quasiment 50-50, mais c'est l'ouverture d'un compte conjoint à long terme, qui est plus important, qui est plus significatif selon 54% des Canadiens. Maintenant, entre ouvrir un compte conjoint et se marier.
Mais là, franchement, c'est sûr que se marier, c'est plus engageant. Moi, j'ai divorcé, saviez-vous ça?
Oui.
Une fois que tu as fait ça, tu prends toute la mesure de l'importance de réfléchir avant de se marier.
Ben, j'irais pour se marier aussi.
C'est se marier... mais seulement à 60 contre 40%.
Ah, ouais.
Ce que je comprends pas, honnêtement.
OK. Puis, y a-tu d'autres étapes qui ont sondé? Parce que la chose la plus engageante dans la vie, c'est faire des enfants. Parce
oui.
Parce que tu
puis
peux pas te séparer d'un parent.
Puis avec le nouveau
co-parent.
Patrimoine familial, aussi le nouveau concept, puis on rentrera pas encore dans tous les détails, là, mais c'est encore plus engageant que ça l'était... de faire un enfant avec quelqu'un.
Ouais, ben,
au niveau monétaire et
ça. Il y a des implications
ça,
de patrimoine et d'argent, mais dans les faits, tu étais pogné avec cette personne-là pour le reste de tes jours si tu faisais un enfant avec pareil. Mais avec la réforme du droit de la famille, effectivement, les conjoints de fait maintenant ont plus de responsabilités l'un envers l'autre.
À quel moment, toi, tu as ouvert un compte conjoint avec ton partenaire?
Rapidement.
OK. Bon, ça aurait...
Dans les après qu'on ait commencé à vivre ensemble... Je dirais dans les 12 premiers mois.
Mais y a-tu une étape, mettons, qui a fait, OK, là, ça égale, on serait dû pour un compte conjoint?
Bien, quand mon chum m'a emménagé chez moi, j'avais une maison. Il est venu vivre chez nous. Il est arrivé de Montréal. On s'est mis à avoir des dépenses communes. Puis, on a ouvert un compte conjoint. Puis après ça, ce compte conjoint... En fait, là, j'essaie de me remémorer ça. Là.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, mais... je vous dirais que peut-être que le compte conjoint est arrivé avec quand je tombais enceinte parce qu'on s'est mis à acheter des R3E, puis ça a été ça le compte conjoint. Des régimes d'études
R3,
enregistrés.
Okay.
C'est de l'argent que tu mets de côté pour les études. Le gouvernement te donne de l'argent.
J'appelle ça RE.
RE.
C'est ça,
moi, j'appelle ça R3.
Okay.
La question qui a été posée dans le sondage de Moose Money, c'est à quel point dans une relation tu veux ouvrir un compte conjoint? Puis là, on a tout étalé ça selon différents moments d'une relation. Il y a 8,5% des répondants qui disent aussitôt que ça devient sérieux.
Ah ouais, mais pour faire quoi?
Ces 8,5%-là doivent se mettre dans la marde.
Ben, je pense que oui, là, wow, là.
Dès que ça devient sérieux, c'est parce qu'aussitôt tu dis, mettons, officiellement, on est en couple, tu ouvres un compte conjoint, je trouve que c'est courir après le trouble un petit peu, là.
Peut-être que ces 8,5%-là, ils cachent des dettes de 500 000
$. C'est les mêmes. Moi, je pense que c'est tout le temps les mêmes irresponsables qui ouvrent un compte conjoint. Mais à vos yeux, là, de gars qui, disons, ont moins de vécu que moi,
oui.
Ça sert à quoi, un compte conjoint, à vos yeux?
Payer les dépenses conjointes.
Mais c'est ça. Donc,
dépenses
chacun,
de maison.
C'est ce que ça permet de faire, c'est selon le revenu de chacun. Tu regardes un peu les dépenses qui sont communes, puis tu dis, bon, ben moi, je gagne tant, l'autre gagne tant, ben au prorata, puis là, je dis ça, je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais ça devrait être ça, à mon avis. Tu mets de l'argent dans le compte conjoint, puis là, quand on part en voyage ensemble ou quand on, si on a des comptes à payer ensemble parce qu'on vit ensemble, ben on le prend dans ce compte-là, ce qui évite, ce qui est très transparent, puis que tu vois ce que tu mets dans le compte.
Ben tout ce qui est maison, hydroélectricité, des enfants, des taxes municipales.
Pour 15,8% des répondants, le moment d'ouvrir un compte conjoint, c'est quand on déménage ensemble.
Ouais.
Et t'as l'étape comme d'après qui est 20,5% quand on achète une maison ensemble.
Ouais. Oui, oui. C'est plus logique.
T'as seulement 2,7%. Ça, je suis surpris qu'ils disent quand on devient parent. J'aurais pensé que ça aurait été plus élevé que ça.
Ben
c'est
oui,
seulement 2,7%. Et il y a 34,5%, puis c'est la réponse la plus populaire, quand on se marie.
Ben non. C'est quand tu as des enfants. Là, ça devient inévitable. Quand tu as des enfants, des affaires qu'il faut que tu fasses, avoir un compte pour les dépenses communes. Puis, il y a beaucoup de gens qui se disent pas les vraies choses en couple, là, en fait. Là. C'est très flou, là. Qui dépense quoi? Puis, il y a quelqu'un à un moment donné qui a l'impression qu'il dépense plus que l'autre. Puis, là, tu es dans les impressions. Il y a encore très peu de gens qui font des budgets non plus, là, puis qui regardent tout ce qu'on a à payer vraiment. Je pense que l'ouverture du compte conjoint, c'est comme une étape, justement, qui est un peu. En fait, ça doit être avant que tu aies des enfants, minimalement.
Il y a presque une personne sur cinq aussi, 18%, qui dit jamais.
Ouais.
Ah ouais.
Chacun son compte. Puis... Mais c'est pas nécessaire d'avoir un compte conjoint non plus.
Puis ça mène un peu à la prochaine question qui est dans une relation où les deux sont commis, sont engagés, comment vous préférez organiser les finances? Il y a 18,8% qui disent complètement séparés. On garde notre argent individuellement dans des accounts, puis on split les bills de manière manuelle.
Ouais.
T'as 38,2%, c'est la réponse la plus populaire. Mostly separate, fait que, surtout séparément. Fait qu'on garde notre compte individuel, mais on contribue aussi dans un compte conjoint pour payer les bills qu'on a ensemble.
C'est ça.
Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait, notre vision d'un compte conjoint qui est de payer les bills aux deux. Puis c'est le plus populaire à 38,2%. T'as 17,6% qui dit surtout combiner, qu'on dépose tout notre argent dans un compte conjoint, mais on garde des cartes de crédit individuelles.
Ouais, mais ça, c'est une formule qui... Tu sais, l'important, c'est que ce soit équitable, en fait. Peu importe la formule que tu vas choisir. Si t'as l'impression... Puis tu sais, à un moment donné, quand tu te maries, puis t'as des enfants, puis t'as une maison, là... Quand même que je me mettrais plein d'argent de côté de mon côté, puis je suis comme, c'est mon argent, puis que je m'assurerais que mon chum jamais y ait accès, tu sais, ça sert comme plus à rien.
Puis t'as quand même une personne sur quatre qui dit complètement combiné. On met tout dans le même compte, nos cartes de crédit, c'est les mêmes,
ouais.
Tout est ensemble.
Mais je trouve que les comptes, c'est anecdotique jusqu'à un certain point, parce que moi puis mon chum, on est mariés, on a un compte conjoint pour les trucs conjoints, on a chacun nos comptes. Mais son argent, c'est mon argent, c'est son argent. Il y a pas de, tu sais, on fait pas la police des dépenses nécessairement pour des dépenses en bas de 200$, mettons.
On arrive à la question pour moi la plus intéressante.
Oh oh.
Quand il y a un revenu de façon significativement plus élevé d'un bord ou de l'autre dans une relation, c'est quoi la façon la plus fair de diviser les dépenses? Ça, je pense que chacun a son école de pensée là-dessus. Il y en a... La majorité dit 40... C'est presque 44%. Tout va dans un pot, puis toutes les bills se payent avec ça. Fait que c'est pas important qui paye quoi. Tu sais, on met deux revenus qui sont complètement différents dans un pot, puis on paye. On a le split proportionnel, qui est assez populaire aussi,
oui.
À 33,9%. Chaque partenaire contribue un pourcentage basé sur son revenu. Fait qu'exemple, si un partenaire fait 70 % des revenus, ben il paye 70 % des billes.
Ouais.
Moi, ça, je trouve que ça fait beaucoup de sens.
Je pense qu'on est tous à la même place pour ça aussi. Là, que
c'est, mais ce n'est pas tous les couples qui fonctionnent de même.
Single provider, 4,5 %. Le plus haut, celui qui a les plus forts revenus, paye tout pour laisser l'autre faire des économies.
Ah, OK, intéressant.
Ouais.
Mais c'est 4 points. Ça te met un peu en situation de dépendance. Peut-être?
Un peu. Fait que ça, c'est 4,5 %, on s'entend, c'est très mineur. Et t'as 17,7 % quand même qui disent strict 50-50. Qu'il y en ait un qui fasse 150 000, l'autre 25 000, ben chaque partenaire paye exactement le même montant à ses factures.
Mais une fois que tu commences à avoir des enfants puis une maison, si tu demandes aux gens de payer 50-50, en tout cas, il y a quelque chose qui marche pas, je pense... Dans le 50-50.
Ben c'est que si quelqu'un gagne 150 000 puis l'autre personne gagne 75 000 puis vous vous divisez les dépenses, ben c'est impossible.
Le petit salaire sera jamais capable de mettre des REER de côté, de faire des investissements. Il sera pas capable de s'enrichir. Si tu restes ensemble toute ta vie, c'est belle fois.
Mais si jamais tu restes pas ensemble, ça veut dire que le 75 000 n'a pas le choix de se mettre dans le tapis puis que le 150 000 n'a pas le choix de se descendre en termes de rythme de vie.
Parce qu'on pourrait se dire, ben dans le fond, la personne qui gagne 75 000 profite un peu de l'autre salaire quand même.
Mais dépendante.
Mais non, parce que le rythme de vie, le niveau de vie va être plus élevé. Il va essayer de suivre la personne qui est à 150 000. Honnêtement, avoir des salaires très différents, ça peut être une source de complexité. Moi, je pense qu'avoir des salaires similaires, ça aide.
Ah, c'est clair. Moi, honnêtement, je me verrais mal sortir avec une fille qui fait 200 000 piastres en sachant que je suis loin de ça.
Mais c'est que ça crée des tensions.
Ben oui, parce que là, puis aussi, encore plus, s'il y a des non-dits, tu sais, si c'est clair, puis ça a été mis clair, peut-être qu'il y a des malaises. Moi, je suis mal à l'aise que la fille, que Char paye au prorata notre... Mais en même temps, je trouve que ça fait du sens, puis je trouve que c'est ce qui fait le plus de sens, puis moi, je serais très à l'aise si j'étais le plus haut salaire à faire ça. Mais, puis je sais pas si c'est une question homme-femme, puis d'orgueil, puis de comment on est habitué...
C'est courant. Les gars ont un malaise à ce que les filles payent plus.
Ouais.
On le sent encore.
Mais le contraire, comme je dis, me ferait plaisir de payer au prorata. Mais que la fille paye 70 % des factures parce que moi, je fais moins d'argent qu'elle, c'est peut-être de l'orgueil mal placé.
Mais je sais pas. Moi, mettons, live, veux pas, ma blonde de 20 ans est aux études. On s'entend qu'on habite ensemble, mais moi, je fais un salaire.
C'est une situation qui est temporaire, toutefois.
Oui, exact. Mais pour
on lui souhaite.
Mais pas. Ouais. Ce serait problématique si elle reste aux études pendant 50 ans. Là. Mais, tu sais, je fais le plus gros salaire entre nous deux parce que je travaille temps plein. Mais forcément, quand on va à l'épicerie, puis on calcule pas exactement, mais... Je finis par plus payer qu'elle, puis pour moi, c'est normal.
Mais vous y allez
normal.
Un peu de manière spontanée.
On y
vous
va de manière spontanée. Exactement.
Là.
On y va de manière spontanée. Je sais que je gagne plus qu'elle. Fait que je vais plus souvent payer des restaurants. Je vais plus souvent payer l'épicerie. Puis pour, dans le sens, pour moi, c'est normal. Là. Mais je pense qu'honnêtement, je serais à l'aise dans le sens contraire aussi. Mettons que j'étais aux études puis que ma blonde travaillerait temps plein.
Tu te sentirais pas émasculé qu'elle paye le resto?
Non, je pense que je serais à l'aise qu'elle paye un peu plus aussi.
On parlait des résultats d'un sondage qui est disponible en passant, puis il y a vraiment du stock intéressant. On a fait à peu près même pas la moitié, je pense, du stock qu'il y avait là-dedans. Pour ceux que ça intéresse, moosemoney.com, argentdorignal.com pour faire la bonne traduction. Il nous reste quelques minutes. Vous dire que dans une trentaine de minutes à peine, au Festival de Lévis, c'est l'excellent band Caravan qui embarque sur scène. Caravan qui est en tournée d'adieu en ce moment. Si vous avez jamais vu Caravan en show, vous voulez voir ça, ça va être excellent ce soir du côté du Festival à Lévis. Avant, Salbarbe, Marianne Clépine et Fred Dispo. Moi, ça, je m'en vais voir, puis j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je m'en vais au roast juste pour rire de Marimé.
C'est sûr que ça va être bon.
Oui, ben Les roasts, moi, je suis sévère parce que pour moi, un roast, il faut que ce soit méchant pour vrai.
Oui.
Moi, je m'en vais pas là pour voir des petites taquineries. Là. Je m'en vais là pour voir Marie-Mé brailler.
T'as-tu déjà assisté à des mariages où est-ce qu'il y a des petits roasts?
Oui. Faut que ce soit méchant.
Les filles d'honneur qui font des roasts, c'est jamais drôle. Là. Ils sont pas méchantes. T'sais, c'est comme des les hommages gars. Avec une petite
Les
joke.
Gars, par
Ça se ramasse, les gars, c'est hot.
Mais c'est ça. J'ai très hâte de voir à quoi... Qu'est-ce que ça va donner? Parce que pour moi, un roast, faut que ce soit méchant. Je veux dire, Marie-Mé, il y a tellement d'affaires sur quoi tu dois pouvoir rire d'elle que j'ai hâte de voir un paquet d'invités à soir. Il restait quelques billets, je pense, c'est du côté du Grand Théâtre de mémoire. Il faudrait que je vérifie ça d'ailleurs avant de m'y rendre. Mais c'est ça, roast juste pour rire de Marie-Mé. J'ai hâte d'aller voir ça à soir.
Des fois, au Québec, les roasts sont un peu plus doux, j'ai envie de dire, parce que tu regardes aux États-Unis, quand il y a des roasts de célébrités, ça rentre en maudit.
Oui. Alors, j'ai vraiment hâte de voir parce que, non, je pense que ça peut être bon. Je suis quand même confiant. Après ça, je m'en vais du côté de Oceaga à Montréal. Demain, notamment, en tête d'affiche, un band, un duo, en fait, qui a plusieurs années de ça déjà, a charmé bien du monde, c'est Plaine d'Abraham. À toutes les fois que je parle de 21 Pilot à du monde, il me parle du fameux show c'est Plaine d'Abraham lors du dernier festival d'été de Québec, mais un fait qu'il y a quelques années où le 21 Pilot avait charmé tout le monde. Tête d'affiche demain à Oceaga. J'en profite pour vous rappeler que vous pourrez m'entendre en fin de semaine avec Dan Caron. Là, je serai en direct de Montréal. Je vous parlerai de mes shows préférés du côté du festival. Lundi, je risque de parler à la gang de Gravel dans le retour aussi. Antonine Iaccarini, tu tombes en vacances dans quelques secondes?
Oui, dans 2 minutes exactement.
Avant de quitter les ondes de Boulevard 102.1, as-tu un message à adresser à la foule que tu as accompagnée? Tu as été la personne qui était là tout l'été dans le retour. Là.
Oui, tout le monde a défilé, parti en vacances, revenu. Puis moi, j'ai quand même gardé le fort.
Comme t'appelais Audrey.
Oui, Audrey m'appelait le pilier. Il est temps pour moi d'enfiler mon linge mou et de quitter et d'arrêter de lire les nouvelles et de vous bombarder chaque matin avec plein d'idées de sujets.
Tu vas être capable de décrocher complètement?
Ça va être difficile, mais je vais quand même essayer pour garder mes énergies pour la campagne électorale, parce que là, cet été, j'animais avec vous, mais moi, c'est la politique, ma première passion. Donc, ça va être un gros automne avec la campagne électorale.
On va continuer, évidemment, de t'entendre à Boulevard pour des chroniques politiques. Mathias, Antonine, merci beaucoup. J'ai adoré ma semaine avec vous. Mathias, continue de travailler. T'es jeune, tu sers à ça. Antonine, merci beaucoup. Je te souhaite d'excellentes vacances.
Merci, à bientôt.
Aux auditeurs, un gros merci, puis on se revoit, on se repart sûrement demain. Salut, bye.
Tous les midis.